France Info. France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, le message d'un pape de combat à la une des informés de France Info, le Saint-Père qui a fustigé hier soir la voracité consumériste des hommes, a appelé aujourd'hui Urbi et Orbi à la fraternité entre les hommes en revisitant toute la géopolitique de la planète. Nous évoquerons un exemple de solidarité avec la mairie de Paris qui a ouvert ses portes avec le SAMU social aux femmes sans domicile fixe. Noël, synonyme de trêve nationale dans le conflit des gilets jaunes, même si un grand nombre d'entre eux ont réveillonné sur les ronds-points, le mouvement irradie les vœux des personnalités politiques, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen ou encore Gilles Legendre, vous les entendrez. Et parce que les Français, n'oublient pas la planète, il y a ce succès inattendu, il faut le dire, celui de la pétition des 4 ONG qui envisagent un recours contre l'État pour inaction climatique. Plus d'1 600 000 signataires. Est-ce à dire que les mentalités bougent? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Dominique Versini.
Bonsoir.
Ancienne ministre, aujourd'hui adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre l'exclusion des réfugiés et de la protection de l'enfance. Avec nous également, bonsoir et bienvenue, Laurence Saillé.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole Les Républicains et membre du bureau politique de LR. Avec moi, Albert Zenou. Bonsoir, Albert.
Bonsoir.
Partenaire des informés, rédacteur en chef au service politique du Figaro. À mes côtés également, bonsoir Romain Mouton.
Bonsoir Jean-François.
Ravi de vous revoir, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. Nous sommes ensemble à la radio et à la télé. N'oubliez pas, canal 27 de la TNT jusqu'à 21h. Ce pape argentin n'en finit pas de nous surprendre. L'homme est devenu avide et vorace. Avoir amassé des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Et oui, c'est ce qu'a dénoncé hier soir le chef de l'Église catholique, évoquant le consumérisme lors de sa traditionnelle homélie de la nuit de Noël. Et à la mi-journée, le Saint-Père, pour sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde, s'est lancé dans un panorama géopolitique grand large, égrenant les zones de conflit et appelant l'humanité à la paix, à commencer par le conflit israélo-palestinien. Extrait.
Qu'elle permette aux Israéliens et aux Palestiniens de reprendre le dialogue, d'entreprendre un chemin de paix qui mette fin à un conflit qui, depuis plus de 70 ans, déchire la terre choisie par le Seigneur pour montrer son visage d'amour.
Dominique Versini, ce pape fait de la géopolitique, en fait.
Oui, ça, c'est le rôle des papes.
Mais particulièrement
temps,
lui, quand même. Il a quand même parlé du Yémen, de l'Afrique avec la famine, des deux Corées, de l'Ukraine, du Nicaragua. Il est allé quand même assez loin, ce pape.
Oui, parce qu'en fait, il parle à des gens sur la planète entière, soit des gens qui croient en lui, soit simplement des gens pour lesquels sa parole veut dire quelque chose, sa parole aussi politique. C'est le pape des pauvres, c'est le pape des migrants et des réfugiés. Il l'a tout de suite acté lorsqu'il a été nommé à cette fonction. Et il a aussi marqué dès le départ qu'il fallait changer de train de vie. Lui-même vit plus modestement, toute proportion gardée, etc. C'est des symboles et je crois que c'est important en ce jour de Noël, de toute façon, qu'ils le disent. Alors qu'il y a, il parle aussi dans son discours des enfants, des enfants qui sont dans les camps de réfugiés, des enfants qui vivent dans la rue, des enfants qui sont exilés. Mais on en voit en France, on en voit sur toutes les routes de France. Et moi, ça me touche parce que c'est un de mes engagements.
C'est votre sujet, votre engagement. Laurence Saillé, ce pape pourrait être quasiment secrétaire général des Nations Unies.
Il est dans son rôle de pape. Et moi, en tant que politique, je ne vais pas commenter les propos du pape.
Ah, vous avez bien un avis quand même, non?
Parler de fraternité, oui, d'ailleurs. C'est le troisième terme de notre devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. C'est Noël, le pape s'exprime, c'est tout à fait normal. Et nous, les politiques, nous exprimons sur notre terrain.
Albert Zenou, du Figaro, donc là, vous avez le droit de parler, vous.
Oui.
Le conflit israélo-palestinien et tous les conflits qui, au fond, empêchent cette humanité d'évoluer, c'est le rôle du pape, mais peut-être lui va plus loin, finalement.
Il va sans doute un petit peu plus loin, bien que avant lui, Jean-Paul II avait été aussi un pape très, très géopolitique.
Et combatif.
Il s'était impliqué énormément. Alors parfois un peu plus sur l'Europe, il avait été l'un de ceux qui avait permis au mur de Berlin de tomber et au communisme d'être défait, sans doute. Mais effectivement, François, par son éducation, par ses origines, c'est un pape migrant, on va dire, hein, puisqu'il est argentin mais italien d'origine. Donc il a connu aussi pas lui, mais sa famille, en tous les cas, oui, a connu l'effet de la migration. Il est dans son rôle, donc, d'être dans ses discours. C'est un chef d'État. On l'oublie peut-être. C'est le souverain pontife, mais il est aussi chef d'État. Donc, il est à la tête d'un État. Et à ces titres-là, il a parfaitement le droit. D'autant qu'il dit des choses que l'ensemble de l'humanité pourrait partager. Il appelle à la paix dans le monde, au retour du dialogue entre Palestiniens et Israéliens, enfin à la fin de la guerre au Yémen, enfin toutes ces choses pour lesquelles
tout le monde est d'accord,
tout le monde est à peu près d'accord. C'est tout le monde est d'accord.
C'est un pape consensuel malgré tout. Vous le trouvez médiatique, ce pape François, vous?
En tout cas, sa tribune du 25 décembre est une formidable opportunité pour lui de communication. C'est un discours qui doit transcender tous les clivages et c'est un discours qui doit s'adresser au plus grand nombre. D'ailleurs, on voit que chaque mot n'a pas vocation à créer la polémique. Chaque mot est pesé. Il n'a pas d'ailleurs le monopole de la fraternité, ce pape. Et la religion catholique n'a pas le monopole de la fraternité. C'est d'ailleurs intéressant de voir, c'est pas une attaque contre Laurence, mais de voir la laïcité à géométrie variable chez les Républicains qui, finalement, quand ça les arrange, sont là à draguer les catholiques et vont, sur le 25 décembre, ne pas commenter sans démarquer. Donc François est un... C'est pas une attaque contre vous, hein, c'est une attaque...
Je trouve que c'est un peu déplacé, parce que par respect pour le pape, c'est pas ne pas s'en défaire, ou je sais pas comment vous avez qualifié ça, c'est juste le respect de la parole du pape, c'est-à-dire que j'estime que j'ai pas à commenter, c'est une parole forte, une parole puissante, qu'il a délivrée aujourd'hui, et je ne m'estime pas ma place pour commenter, peut-être c'est votre métier, mais pas le mien, et il ne s'agit pas de parfois récupérer ou pas, là c'est une attaque qui n'est pas fondée.
En tout cas, vous l'avez trouvé forte et puissante, voilà, c'est un avis qualitatif. Merci à vous, Laurent Saliot.
Tout à l'heure, donc je suis ravi de l'entendre, justement.
Allez, 20h10, on va poursuivre là-dessus, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Grégory Gay dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. En juin dernier, son beau-frère Jonathan Daval l'avait accusé d'avoir tué son épouse Alexia en octobre 2017 à Gray en Haute-Saône. Depuis, Jonathan Daval a reconnu être l'auteur de ce meurtre. Les trois syndicats de la police technique et scientifique appellent à la grève à partir de jeudi et non plus demain. Leurs revendications restent inchangées. Ils demandent entre autres un nouveau statut conforme à leur exposition au danger du fait de leur mobilisation accrue sur le terrain. Ce fut le cas notamment lors de mobilisations de gilets jaunes. En Indonésie, le dernier bilan du tsunami de la nuit de samedi à dimanche est d'au moins 429 morts. Des milliers de rescapés sont désormais réfugiés dans des centres d'urgence où les personnels humanitaires craignent une crise sanitaire du fait du manque d'eau potable et de médicaments. Toujours pas d'accord aux États-Unis où une partie de l'administration fédérale est bloquée. On appelle cela le shutdown et Donald Trump assure ce mardi qu'il durera aussi longtemps que nécessaire. Le président américain souhaite toujours la mise en place d'un mur anti-immigration à la frontière mexicaine. Les démocrates refusent son financement.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, Laurent Salier l'évoquait à l'instant. Le pape François, donc, a appelé à la paix et insisté sur la fraternité entre les êtres, entre les nations et les religions, par-delà leurs différences.
Je vous adresse des vœux de fraternité, fraternité entre les personnes des différentes nations ou cultures. Nos différences ne sont pas un danger, elles sont une richesse, comme pour un artiste qui veut faire une mosaïque. C'est mieux d'avoir à disposition de multiples couleurs plutôt que des carrés d'une seule couleur.
Laurent Saliot, quand on voit ce qui se passe dans notre pays depuis quelques jours, semaines, ce message, au fond, est d'actualité. Regardez ce qui s'est produit, des gestes antisémites répétés, un climat parfois d'opposition, pour ne pas dire de haine. Vous pensez qu'on aurait besoin d'un peu plus de fraternité entre nous ?
Bien sûr, mais le phénomène, si vous faites référence aux gilets jaunes, on ne peut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une détresse et une souffrance qui a été exprimée en France ces dernières semaines et qui existe depuis plusieurs mois et plusieurs années. Et à la fois, il y a eu de très graves dérapages antisémites, racistes, et puis beaucoup de violence envers nos forces de police, envers, envers les Français. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mettre et faire l'amalgame. Bien sûr qu'il faut de la fraternité, et on a vu qu'il y avait de la souffrance en France, et j'espère que le président de la République et son gouvernement en ont bien pris conscience, parce que ils ne peuvent pas rester dans une attitude, comme ils l'ont fait au début du mouvement, de mépris et même parfois de, on va dire, de stigmatisation.
Romain Mouton, fraternité, c'est le mot qui devrait être furieusement à la mode aujourd'hui, hein.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs peut-être que le pape l'utilise, et il a eu tout un discours, je ne sais pas si on va en parler après aussi, sur la surconsommation qui fait partie de ces grands thèmes. Le message du pape à cette tribune de Noël a vocation à transcender les conflits, et donc du coup c'est deux thèmes qui peuvent être utilisés dans tout un tas de discours, et il était important effectivement pour les catholiques que le pape aussi incarne des thématiques comme ce sujet de la consommation à l'heure où...
Oui, le consumérisme, alors que c'est le pouvoir d'achat, Albert Zenou, qui est au cœur des préoccupations des Français.
Oui, c'est d'ailleurs c'est un peu le paradoxe. Enfin, il a des mots très forts sur la voracité, sur le contre le consumérisme, il appelle à l'avidité. Et en même temps, donc, il appelle en fait à une espèce de minimalisme, ce qui est très à la mode aux États-Unis. Donc, à vivre avec le moins possible, essayer de diminuer sa consommation. Et pour autant, on voit en France ce combat pour le pouvoir d'achat, pour ceux qui n'ont pas assez et qui veulent vivre, veulent plus dépenser. Donc, alors, bien sûr, c'est un trait un peu particulier. Hein, je fais pas, il y a pas de lien organique. Mais je reviens sur la fraternité. Le mot fraternité fait partie de la devise française.
Hein, républicaine, absolument.
Donc, on peut que s'enorgueillir d'avoir un pape qui défend la fraternité. Et là aussi, c'est très consensuel. Il faudrait que tout le monde défende cette fraternité, quelle que soit couleur, religion, ethnie. Donc, effectivement, il faut appeler à plus de fraternité.
Alors, Dominique Versini, je voudrais évoquer la fraternité par l'exemple avec vous, parce que c'est Noël et nous avons décidé aux informés de donner un petit coup de projecteur sur un exemple de solidarité envers les plus démunis. Je vais vous laisser faire la description de l'opération. C'est la halte pour les femmes SDF sans domicile fixe qui sont hébergées depuis le 11 décembre à la mairie de Paris.
Absolument. En fait, pourquoi ouvrir les portes de l'hôtel de ville de Paris pour des femmes en situation de rue. En février dernier, donc, nous avons fait un décompte, un comptage des personnes sans domicile fixe dans les rues, dans toutes les rues de Paris, des bénévoles et des professionnels ont sillonné les rues et ont compté les gens qui restaient dans la rue, alors qu'il y avait beaucoup de places, il y avait près de 22 000 places ouvertes. C'était le plan Grand Froid, et à l'année, il faut savoir qu'il y a 20 000 places à Paris. Et ce qu'a montré ce décompte, c'est que 12% de femmes sont en situation de rue et refusent de venir dans les centres d'hébergement qui sont mixtes en général, parce qu'elles ont subi des gros traumatismes, des grosses violences. Une femme à la rue est toujours en danger. Et que quelques années auparavant, une étude de l'INSEE montrait que c'était seulement 2%. Donc une augmentation très forte des femmes en situation de rue qui se cachent dans les recoins de la ville et qui veulent pas venir.
Qui n'osent pas,
ont peur. Anne Hidalgo a décidé d'ouvrir donc deux salons de l'hôtel de ville.
Alors, la salle des Prévôts, la salle des Tapisseries sont des lieux illustres, hein, pour ceux qui connaissent un peu la mairie de
Paris,
où on accueillait des personnalités étrangères, des expositions.
Oui, la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne, le président Macron, tous les chefs d'État. Et maintenant, ces deux salons, enfin finalement, qui servaient quelques fois par an, accueillent des femmes, une cinquantaine de femmes la nuit, jusqu'à 75 femmes le jour. Parmi les plus démunies, celles qui sont à la rue, qui se cachent, nos équipes de maraudes, celles du SAMU social et de la ville et des maraudes citoyennes, vont vers elles, leur proposent de venir et là, elles sont accueillies. Nous avons confié cela parce que bon, c'est pas notre métier de le faire à l'hôtel de ville. Ça l'a été pour moi dans une vie antérieure quand je créais et dirigeais le SAMU social avec Xavier Magnoli.
Avec Xavier Magnoli, absolument.
Mais là, nous avons confié donc au SAMU social cette halte pour les femmes, et on voit que tout de suite, il y a un phénomène de reprise en main d'elles-mêmes, de leur estime d'elles-mêmes, de leur corps, se sentir en sécurité, et aussi dans des liens de solidarité et de fraternité, oser le mot.
Ouais, je vous propose d'écouter ce bref témoignage. Elle s'appelle Massangé, elle a 46 ans, recueillie par nos confrères du Parisien.fr. Et cette personne, cette femme, rêvait d'un foyer stable, dit-elle, où elle ne savait savait pas où aller. Sans la halte, elle pense qu'elle aurait pu mourir dehors.
C'est un miracle pour moi, quoi. Bon, je voulais un foyer stable, mais je n'avais pas encore eu la chance. Si elle n'a pas fait, elle n'a pas réagi, nous on va mourir dans le foyer. Les enfants, ils peuvent tenir, mais nous, les vieux, on ne peut pas.
Voilà, c'est un miracle pour moi, dit Massanger. Laurent Salier, ce sont des initiatives qu'il faudrait, j'imagine, démultiplier sur l'ensemble du territoire pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe.
Évidemment, les femmes sont encore plus fragiles dans la rue. Et j'ai vu que vous faisiez un accompagnement de réinsertion. Et ce qui est essentiel aussi, au-delà de l'accueil, parce que ce qui compte beaucoup, c'est de pouvoir justement aider les femmes, pas seulement les accueillir, mais les aider à retrouver une activité et un toit. Et la réinsertion, qui fait partie de votre démarche, il m'a semblé, est très importante aussi. Parce que bien sûr, protéger, mais il faut penser à l'avenir.
Albert Zenou, sur cette initiative de la mairie de Paris, on la critique souvent, la maire de Paris, avec les histoires d'automobiles, de voies sur berge et autres. Là, pour le coup, tout le monde est à peu près d'accord.
Oui. Donc le Figaro n'est pas le dernier organe de presse à critiquer.
C'est pour ça que je vous ai formulé la chose de la façon suivante.
Je parle d'autant plus facilement que effectivement c'est une initiative qu'on ne peut que saluer. Alors en ce jour de Noël, il faut dire que de bonnes et belles choses. Donc
pas forcément.
En tous les cas, pour ce qui concerne ces femmes SDF, bah oui, enfin c'est une évidence que c'est une très belle opération. Enfin, si on peut sortir des femmes de la rue, de l'isolement, de la précarité,
c'est il y a aussi la symbolique de ces deux salons évoqués à l'instant par Dominique Versini qui sont au fond, on va dire, réformés pour une action sociale.
Oui, c'est difficile de critiquer une initiative à côté de la personne qui l'amène et en plus de ça le jour de Noël. Et qui plus est, quand on n'a pas envie de la critiquer, il n'y a pas de critique. Mais par contre, c'est vrai qu'Anne Hidalgo a toujours à cœur de marquer le territoire là où il y avait des choses un peu établies, qui étaient des espaces un peu privilégiés. Et à n'en pas douter, utiliser les salons d'hôtels de ville, des salons utilisés notamment pour des réceptions de chefs d'État étrangers, c'est un symbole fort. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passera quand il y aura un chef d'État étranger, du coup ?
Dominique Versini, oui.
Il passera par la rue Lobo, il passera plus par la place de l'Hôtel de Ville.
C'est un dispositif qui est appelé à durer, Dominique.
Oui, c'est un dispositif pérenne. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à Paris, c'est vraiment quelque chose de très consensuel, puisque d'autres maires ont ouvert les portes de leur mairie. La maire du 5e, Florence Berthoux, qui accueille une halte pour une quinzaine de femmes. La maire du 10e arrondissement, dans les locaux de l'ancien tribunal d'instance, va accueillir aussi une trentaine de femmes. Dans différents arrondissements, les maires de Paris, cette année, ont contribué beaucoup, enfin les maires d'arrondissement.
Quelle que soit la couleur politique.
Oui, de toute façon, sur tous ces sujets de lutte contre l'exclusion, de SDF, de migrants, etc. À Paris, c'est à chaque fois un vote à l'unanimité de tous les gens qui se trouvent sur les bancs de notre hémicycle.
Au-delà de l'hiver ?
Albert Zenou.
Absolument, c'est permanent.
Hein, c'est ça.
Non, c'est permanent, justement. C'est pas quelque chose qui est pour une fois, pour une saison. Dans le 5e, c'est permanent. Dans le 10e, etc. Les maires ont décidé de apporter quelque chose. Et je trouve que c'est bien que dans nos locaux républicains, il y ait la fraternité qui rentre.
Voilà, fraternité, de façon œcuménique
et qui
transcende les formations politiques. Ça méritait d'être souligné avec vous, Dominique Versini. On est un tout petit peu en retard, 20h21. Le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le maire de Saint-Jouin, Bruneval, en Seine-Maritime, aimerait bien faire bénéficier ses 16 employés municipaux de la prime exceptionnelle de fin d'année. Il l'a écrit au président de la République. Ce coup de pouce financier mis en place pour répondre à la colère des Gilets jaunes est destiné uniquement aux salariés d'entreprise. L'élu normand y voit un problème d'équité. La crèche de Noël installée à la mairie de Beaucaire, dans le Gard, va-t-elle devoir être démontée ? La préfecture souhaite attaquer la ville en justice. Elle a envoyé un courrier à son maire, Rassemblement National, Julien Sanchez. L'intéressé affirme que crèches et santons sont une tradition. Les traitirés, Greg Kelly a retrouvé aujourd'hui la liberté moyennant le paiement d'une caution de 560 000 euros. Bras droit de Carlos Ghosn chez le constructeur automobile Nissan, il est soupçonné d'avoir aidé le mania de l'automobile à minorer le montant de ses revenus au Japon. Nouveaux affrontements ce mardi entre forces de l'ordre et manifestants à Kasserine en Tunisie. Les incidents sont survenus peu après l'enterrement d'un journaliste qui s'est immolé hier par le feu. Il souhaitait protester contre le chômage et la mauvaise situation économique régnant dans cette région tunisienne de Kasserine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors c'est Noël, ça ne vous a pas échappé, et tout à l'heure Toba Benesh l'évoquait, aux États-Unis le projet de mur avec le Mexique dont le financement, vous le savez, est rejeté par le Congrès, a provoqué ce shutdown qui bloque les services publics depuis 4 jours, et le président américain, lui, eh bien, a fait sensation en se faisant filmer avec son épouse au coin du feu, au téléphone, à la Maison Blanche, avec Coleman au bout du fil, un petit garçon qui, lui, croyait au Père Noël.
Passe un bon moment. Tu crois toujours au Père Noël ? Parce qu'à 7 ans, c'est un peu limite, non ?
Robin Mouton, ce président en mondiovision qui apparemment a dû faire changer un petit garçon de 7 ans sur ses croyances dans le Père Noël, c'est quand même un phénomène extraordinaire de notre société moderne.
Oui.
Non ?
Oui, oui, j'ai l'impression qu'on commande vraiment l'accessoire, mais oui.
Le sérieux arrive derrière.
Non, mais c'est drôle comme anecdote, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de Donald Trump, et est-ce qu'à 7 ans, on croit encore au Père Noël ? Pas souvent, donc bon, c'est mignon, finalement.
Qu'est-ce que vous dites, vous, de cette séquence où ce président se fait filmer, alors qu'il y a le shutdown aux États-Unis et qu'en même temps, il y a toute cette polémique autour du retrait américain de Syrie, Albert Zenou ?
Bah, c'est le Trump tel qu'on le connaît depuis son accession au pouvoir. Enfin, il est capable de tout. Et dire à un enfant de 7 ans que le Père Noël n'existe pas, il n'a pas tort. Il n'existe pas. Donc,
oui, attention, il y a des enfants qui nous écoutent, Albert.
C'est donc, mais c'est très étonnant. Enfin, un président, on va dire normal, aurait été dans l'empathie, aurait été gentil. Enfin, il est pas méchant non plus, mais il aurait abondé dans le sens du Père Noël en lui promettant plein de choses. Là, lui, il refuse. Et en même temps, effectivement, il y a ce retrait très controversé des troupes américaines. De Syrie, enfin des provinces kurdes. Donc, il est très très étonnant. Il est très très étonnant.
Alors, pour les enfants qui nous écoutent, le Père Noël existe. Ce monsieur Trump est un brin père fouettard quand il s'adresse ainsi au petit Coleman. Plus sérieusement, avec vous, Laurent Salier, il y a aujourd'hui la diplomatie turque qui menace la France, qui dit à Emmanuel Macron, eh bien, pas question de que vous souteniez les fameuses troupes kurdes hein, qui sont censées lutter, poursuivre la lutte contre Daesh et que, eh bien, les Américains laissent seuls sur le terrain face aux Turcs. Est-ce que, selon vous, c'est normal qu'un allié de l'OTAN, la Turquie, qui dialogue avec la France, nous menace ainsi ?
Je pense que Emmanuel Macron devrait reprendre à tâche avec le président Trump de manière très sérieuse, parce qu'on a vu une relation entre eux qui était assez chaotique et complexe, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une décision unilatérale qui a été prise. Mais c'est comme sur les bombardements en Syrie où Emmanuel Macron avait suivi Monsieur Trump les yeux fermés. Enfin, c'est difficile de dire qu'on veut de la diplomatie et de l'échange quand on crée une relation comme il l'a créée. Enfin, je pense que c'est deux dirigeants qui ont du mal à parler et du mal. Je pense que le président Macron a du mal à se faire respecter aussi par le président des États-Unis. Et c'est bien dommage parce que c'est une relation qui doit être entretenue et très importante.
Dominique Versigny, on a ce pape hein, qui nous dit il faut la paix dans le monde, qui égrène toutes les situations de conflit. Et il nous dit nos différences sont des richesses. Et là, on a un diplomate, le chef de la diplomatie turque, qui parle de notre président aussi librement. Et on voit que les conflits vont perdurer. Il y a quand même un paradoxe là-dedans.
Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, président Trump devrait comprendre que c'est quand même aux parents d'expliquer la réalité des comptes. Est-ce que le Père Noël existe ou pas ? Oui. C'est pas le rôle des présidents de la République. Chacun son rôle. Et puis, effectivement, je pense que, je suis pas une spécialiste de géopolitique, oui. Mais je pense que le président Trump présente quand même des dangers assez inquiétants pour l'avenir du monde et que il ferait bien d'écouter de temps en temps des voix de la sagesse au lieu de faire preuve d'intempestivité inadaptée à sa fonction.
Romain Mouton.
Sur le shutdown, là, c'est hyper intéressant le process de communication qu'il est en train de mettre en place jusqu'à customiser, personnaliser le standard de la Maison Blanche sur les services publics américains qui ne fonctionnent plus en raison de ce conflit. Il crée un rapport de force en prenant l'opinion publique à témoin avec son sujet du mur qu'il veut construire et qui finalement est assez populaire aux États-Unis. Et donc, il a monopolisé l'ensemble des services en utilisant les moyens de communication de ces services pour convaincre les Américains à voir si ça va fonctionner, sachant que quand les Républicains avaient la majorité, ils étaient déjà eux-mêmes opposés à ce projet de Donald Trump.
Albert, c'est nous, ce président-là, quelques secondes encore, eh bien, on est dans le talk show planétaire permanent, là.
Ah, hein, c'est un talk show, oui. Mais d'autant que ce que je rebondis sur ce que vient de dire Romain, le mur est stratégique pour le président américain, puisque c'est une promesse forte de campagne et il tient absolument à honorer cette promesse forte de campagne. Effectivement, il n'aura plus la majorité en janvier avec l'arrivée des démocrates au Congrès. Et donc, il va vouloir faire reporter en partie, en tous les cas, le refus sur la majorité démocrate.
Allez, ce feuilleton-là n'est pas achevé. Bien évidemment, 20h28 sur France Info. Nous marquons une pause. À tout de suite.
L'homme fidèle, un film de Louis Garrel avec France Info. 10 ans après leur séparation, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé.
Abel, je l'aime pas, parce qu'il a volé ma mère.
Entre les avances de la belle Ève et les machinations de Marianne pour le garder...
Et si tu faisais moins avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire.
Abel va devenir l'objet d'un triangle amoureux un peu particulier.
Je voudrais Abel. Au fond, tu l'aimes pas. Alors je te le demande, laisse-le-moi.
Et si moi je te dis non?
Alors c'est la guerre.
L'homme fidèle avec Laetitia Casta, Louis Garrel et Lily Rose Depp, actuellement au cinéma, en partenariat avec France Info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas de Météo France.
Demain matin, on retrouvera plus de grisailles du nord et du nord-est à la moyenne vallée du Rhône, au centre-val de Loire jusqu'en Normandie. Et avec les températures qui vont chuter, les gelées qui vont se généraliser, les brouillards seront parfois givrants. Quelques plaques de nuages bas seront aussi présentes au sud de la Garonne demain matin. Au fil des heures, ces grisailles vont se dissiper pour laisser place à un temps lumineux. Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes venues de Méditerranée vont gagner du terrain. Sur le reste du pays, le soleil sera plus brillant, malgré un ciel parfois bien voilé. Ce voile nuageux sera de plus en plus épais sur les régions de l'ouest, rendant même le ciel laiteux. Demain après-midi, les températures resteront globalement stationnaires. Prévoyez 3 à 10 degrés sur la moitié nord et 9 à 17 degrés plus au sud.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Émilie Dez.
Bonsoir Jean-François, c'est devant près de 50 000 fidèles que le pape François a prononcé aujourd'hui son traditionnel message de Noël. Après avoir dénoncé la société de consommation, hier le chef de l'église catholique a lancé un appel à la paix en Terre Sainte. Il espère aussi le retour sur leur terre des réfugiés syriens. Un message surtout placé sous le signe de la fraternité. Le pape s'est livré à un véritable éloge des différences. À Rome, Mathilde Imberti.
Comme une nouvelle version du fameux « N'ayez pas peur » et une évidente référence au débat sur l'immigration. La différence est une richesse, insiste le pape François dans son message de Noël.
Nos différences ne sont pas un préjudice ou un danger, elles sont en fait une richesse. Comme pour un artiste qui veut faire une mosaïque, c'est mieux d'avoir à disposition des tesselles de plusieurs couleurs plutôt que des tesselles de peu de couleurs.
Le pape qui prône la fraternité entre personnes de culture, d'idées, de religions différentes, dans la foule Nadège, conductrice de bus à Nancy, suit attentivement et applaudit.
On est qui pour juger les gens de par sa couleur, de par sa religion? Chacun notre petit côté, il faut faire un petit pas tous les jours vers l'autre et je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire.
Le partage avant tout et surtout avant la voracité consumériste, un mal dénoncé par le pape lors de ses célébrations de Noël, une évidence bonne à rappeler selon Anne, dirigeante d'entreprise à Vannes en Bretagne.
C'est difficile pour nous de résister en fait aux tentations, la compétition malgré tout, même matérielle, et donc de venir écouter le pape aujourd'hui nous remet peut-être aussi pour l'année à venir sur une voie un peu plus raisonnable et puis surtout d'apprendre peut-être à regarder les autres.
De quoi repartir du Vatican nourri de bonnes intentions. Rome, Mathilde Imberti, France Info.
Trois jours après le tsunami qui a frappé l'Indonésie, les secouristes s'efforcent d'aider les survivants. Mais le manque d'eau potable et de médicaments se fait cruellement sentir dans les centres d'urgence. Une crise sanitaire est même redoutée. Le tsunami a fait 429 morts, plus de 1400 blessés et 154 disparus selon un bilan encore provisoire. Plus de 5000 personnes ont été évacuées. En France, 8 migrants en détresse ont été secourus ce matin au large de Calais. 6 adultes et 2 enfants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Ils ont été repérés par des navires de commerce à 22 km des côtes. Depuis octobre, ces tentatives de traversée se multiplient. Le beau-frère d'Alexia Daval porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Jonathan Daval l'avait accusé du meurtre de son épouse avant de passer à nouveau aux aveux. L'informaticien avait craqué le 7 décembre dernier lors d'une confrontation avec la mère de la victime. Il évoque toujours un accident. Enfin, pas d'Open d'Australie pour Richard Gasquet le mois prochain. Le Français, 26e mondial, doit déclarer forfait à cause d'une pubalgie. Cette blessure l'avait déjà empêché de disputer la finale de la Coupe Davis le mois dernier. L'Open d'Australie se jouera à Melbourne du 14 au 27 janvier. C'est le Suisse Roger Federer qui est tenant du titre. Tout de suite, les informés. Deuxième partie, Jean-François Aquili.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de Noël avec nos invités. Dominique Versini, adjointe à la mairie de Paris en charge des solidarités, de la lutte contre l'exclusion des réfugiés, de la protection de l'enfance, avec Laurence Allier, porte-parole Jean Béguet des Républicains et membre du bureau politique de LR, avec Albert Zénoux, rédacteur en chef au service politique du Figaro, et avec Romain Mouton, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. Alors ce Noël est synonyme de trêve pour une classe politique rincée, il faut le dire, par un mois de crise, mais aussi d'un calendrier particulièrement chargé. Mais les gilets jaunes ne sont jamais très loin. Chaque ténor les a bien évidemment placés au cœur des messages de vœux de Noël, à commencer par Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, qui a évoqué donc un président qui n'entend pas.
On a envie de retrouver de l'espoir. Parce que la fin d'année a été difficile. Les tensions dans le pays, le désarroi des retraités, de ceux qui travaillent, exprimés au moment des Gilets jaunes, l'attentat de Strasbourg. Et ce sentiment que le président de la République n'entendait pas, ne comprenait pas, ne voyait pas. Pourtant, je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions ensemble.
Qu'est-ce que vous voulez dire par le président n'entend pas chez les Républicains, Laurent Saillé?
Je pense que tout le monde l'a constaté, à la fois pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui n'y a pas été désamorcé au départ, et on a vu le résultat, et ce n'est pas fini. Hier, il s'est exprimé à nouveau, ou avant-hier, en disant que quelque part, il n'allait pas changer de cap non plus. Donc je pense que ce n'est pas la bonne attitude dès le départ et dès le début de ce mouvement. De toute façon, nous, ça fait un an qu'on a expliqué qu'on est sur le terrain pour dire que cette augmentation de taxes sur les carburants ne pourrait pas être assumée par les Français. Puis, sur les retraités, de la même façon, nous avons expliqué que cette augmentation de CSG ne pourrait pas être assumée par les retraités. Tout ceci, nous l'avons dit depuis un an, nous l'avons dit sur le terrain, nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, nous l'avons dit au Sénat, et il n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Vous voyez, par exemple, sur les heures supplémentaires défiscalisées, en mai, nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, on nous a un peu ri au nez en nous disant qu'on était has-been, et au final, c'est ce qu'il a mis en place, même si c'est pas complet. Donc c'est ça de dire qu'il n'entend pas. C'est-à-dire qu'un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, dès le départ, le président de la République aurait dû être à l'écoute, parce que de laisser pourrir les situations, ça exacerbe les colères et ça exacerbe aussi l'expression de la colère.
Encore un mot avec vous à propos des Républicains. Comment est-ce que vous expliquez, selon notre enquête Odoxa d'Ansu Consulting de la semaine dernière, que LR ressorte, alors c'est une tendance, c'est la photographie d'un instant, nous sommes d'accord, très grand perdant de la séquence en matière d'intention de vote aux européennes, puisque vous êtes crédité de 8% sous la barre des 10 points. On a l'impression que vous êtes passé à côté de ce mouvement des Gilets jaunes.
C'est une période qui n'est pas facile, parce qu'il y a deux attitudes à avoir dans cette situation. Soit on fait comme le Front National et comme Nicolas Dupont-Aignan, on agite le chiffon rouge et on amène la France dans le chaos. Soit on est républicain, et c'est-à-dire qu'on ne profite pas de ce mouvement pour justement tirer les marrons du feu, exacerber les colères et empirer la situation. Donc c'est vrai que c'est une position qui était un peu médiane, donc qui
très
nous a peut-être pas servi.
Pour vous.
C'est pas inconfortable. Moi, j'ai toujours été très claire sur le sujet dès le départ. On soutenait les revendications des Gilets jaunes du départ, ouais. notamment l'annulation de la hausse sur le taxe sur les carburants. Et effectivement, au fur et à mesure du mouvement, eh ben, nous avons évolué dans le respect de la République et de nos règles républicaines, parce qu'il y a un moment, quand vous voyez que des centaines de personnes perdent leur outil de travail, leur magasin, leur voiture, que les gens ont la peur aux ventes, n'osent plus sortir, parce que des casseurs
vous
profitent du mouvement des Gilets jaunes.
Vous ne savez plus qui soutenir, in fine, c'est ça l'histoire.
C'est pas une question, ouais. ne caricature pas mon propos, c'est pas ça du tout. Il y a une différence entre des revendications des Gilets jaunes, qui étaient celles
pour lesquelles
on se bat depuis un an, on n'allait pas dire que tout à coup, on n'était pas pour ces revendications-là. D'accord. Et puis après, les mouvements de violence qui se sont greffés au mouvement des Gilets jaunes, parce que moi, je ne fais pas l'amalgame, et qui ont fait basculer les choses, et parce qu'on ne peut pas cautionner cette violence, notamment aussi pour nos forces de police qui ont été victimes de nombreuses agressions.
Dominique Versini, vous aviez exercé en 2002 le job de secrétaire d'État chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. C'était les gouvernements Raffarin sous la présidence Chirac. Quand vous voyez la politique aujourd'hui, quand vous entendez dire les uns les autres, en l'occurrence c'est Laurent Wauquiez, que le président n'est pas à l'écoute, qu'est-ce qui a changé dans la pratique politique depuis cette époque-là, l'ancien monde ?
Enfin, tout ce qu'on entend, c'est de la politique politicienne, hein. C'est pas de la sincérité absolue. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vraies inégalités sociales en France, qu'elles se sont pas réduites, que le fossé est très grand entre les uns et les autres, et que là, effectivement, à l'occasion de décisions politiques qui ont été très mal vécues, surtout par des gens vivant en province, ayant besoin de leur voiture, etc., ça a déclenché une sorte de ras-le-bol avec des revendications légitimes. Néanmoins, moi, ce que je pense, c'est que effectivement, il faut être à l'écoute, il faut y répondre, et il va y avoir ce grand débat qui va permettre de parler. Nous-mêmes, nous allons lancer une conférence de consensus à Paris, parce qu'à Paris, c'est comme dans le reste de la France, il y a 16% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On imagine que Paris est une ville
réalité.
Où il n'y a que des gens très riches.
Le monde réel, c'est la réalité, c'est la grande pauvreté dans ce
le
pays.
Le monde réel, c'est qu'il y a des gens pauvres, et qu'il faut des politiques sociales et de solidarité très fortes, et que c'est vrai que tous les gouvernements qui se sont succédés, à chaque fois qu'ils ont voulu trouver de l'argent pour les déficits, etc., ont tapé sur les politiques de solidarité. Et ça, on ne le peut pas.
Albert Zénou, on évoquait le sort des Républicains pendant cette crise des Gilets jaunes, mais cela concerne au fond toutes les formations politiques qui ont eu du mal à essayer d'appréhender à exister à côté de ce mouvement, qui n'est pas terminé, qui va se poursuivre.
Qui se poursuivra en 2019, sous quelle forme, on ne sait pas encore vraiment, mais se poursuivra. Je reviens sur Laurent Wauquiez. Toute la difficulté pour Laurent Wauquiez, c'est que tous les thèmes qui sont faits jour au moment depuis cette crise, la défense des classes moyennes, le refus de l'assistanat, la baisse des impôts, c'était des thèmes qui étaient de Wauquiez depuis des années. Moi, je me rappelle quand il était ministre de Nicolas Sarkozy.
Vous voulez dire que le mouvement l'a dépossédé de ses propres thèmes.
Il n'a pas su, et d'ailleurs il le reconnaît il reconnaît une forme de mea culpa, il n'a pas su prendre ses thèmes et les incarner complètement. C'est la difficulté d'ailleurs des Républicains aujourd'hui. C'est que le Parti Républicain, qui est le parti de l'ordre et de la bonne gestion, c'est le socle idéologique de la droite gouvernementale, là pour l'instant ça l'est un peu moins. Donc toute la difficulté pour lui, ça va être de retrouver ce socle.
Allez, je vais demander l'avis sur la question à Romain Mouton. Pardon Romain, juste après le rappel de l'info à 20h40 sur France Info avec vous, Thomas Bénèche.
Le pape François a plaidé ce mardi pour la fraternité entre les peuples, le retour au dialogue entre Palestiniens et Israéliens. Il a aussi souhaité le retour des Syriens sur leur territoire qu'ils ont fui en raison de la guerre. Le souverain pontife prononçait ce matin sa bénédiction de Noël à la ville et au monde. 50 000 fidèles étaient au Vatican pour l'écouter. Ils veulent attirer l'attention du public sur la pénibilité de leur métier. Les trois syndicats de la police scientifique et technique appellent à la grève, non plus à partir de demain, mais à partir de jeudi. Ces dernières semaines, ils ont souvent été exposés, ces agents de la police technique et scientifique, au danger, appelés sur le terrain pour relever les empreintes de casseurs, notamment en marge de mobilisation des Gilets jaunes. Des milliers de réfugiés indonésiens manquent d'eau potable et de médicaments depuis le tsunami qui a frappé le pays dans la nuit de samedi à dimanche. L'événement a fait, selon un dernier bilan, 429 morts, près de 1500 blessés. Richard Gasquet, absent de l'Open d'Australie de tennis, dont le coup d'envoi sera donné le 14 janvier. Le joueur français est toujours blessé, souffre d'une sorte de pubalgie, compliquée à traiter, fait savoir l'intéressé.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Romain Mouton, d'accord avec Albert Zénou, pas mal de thématiques au fond qui auraient pu être celles des Républicains et qui sont parties dans le tronc commun, si je puis dire, des Gilets jaunes.
Oui, c'est un problème de communication pour Laurent Wauquiez, c'est-à-dire qu'au début de la crise des Gilets jaunes, il a essayé bien évidemment de récupérer le mouvement en portant lui-même un gilet jaune, après en disant qu'il ne l'avait pas porté, enfin, il y a eu donc ça crée un problème de lisibilité dans la communication des Républicains. Ça a été la même chose tout au long de cette période où en fait il y a eu le basculement, et c'est la position de la porte-parole le résume bien, c'est qu'à un moment donné où l'électorat de droite et le socle idéologique de droite aime l'ordre. Et quand on a surfé sur la vague et qu'on a attisé le feu, comme l'a fait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, comme d'autres l'ont fait, mais au début, ça a été un soutien plus ou moins fort, plus ou moins clair aux Gilets jaunes. Et il y a eu le moment de la bascule où, effectivement, l'électorat de droite a complètement décroché sur les Gilets jaunes et n'a plus soutenu le mouvement dans sa radicalisation, dans les violences, etc. Et donc, Laurent Wauquiez a dû aussi lui-même faire machine arrière. Et ça, le truc, c'est que c'était dans une espèce de vague de droitisation de son discours qui fait qu'il y a un problème de lisibilité, de cohérence, qui est parfois compliqué à suivre pour lui, pour ses troupes, pour les militants.
Laurence Alia, vous avez sans doute un commentaire à émettre.
Surfer sur la vague, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous n'avons jamais à plat manifester. Simplement, les revendications des Gilets jaunes nous semblaient légitimes. Donc nous avons, pour ceux qui le souhaitaient, accompagnés ou pas, il y a des élus qui ont été avec les Gilets jaunes, d'autres non. On n'a pas surfé, on n'a pas attisé, on n'a jamais appelé à manifester, on a respecté des citoyens qui s'exprimaient sur les marchés. Et après, vous parlez de droitisation. Mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que la droitisation quand on parle de la défense des classes moyennes, quand on parle de l'augmentation
de Laurent Wauquiez sur la PMA, pour vous, il est
Je vois pas le rapport avec de la droitisation. Dites-moi votre définition de la droitisation. Connaître.
Parce que Laurent Salier qui prend les rênes de la démission.
Non, mais je vois pas ce que ça veut dire. Parce que c'est des caricatures absolues.
La droitisation, c'est avoir un discours populiste. Le discours de Laurent Wauquiez sur la PMA, par exemple. Comment vous l'expliquez? Est-ce que pour vous, le discours de Laurent Wauquiez sur la PMA, il est mesuré? Est-ce qu'il n'est pas populiste? C'est ça la droitisation.
Nous avons une position sur la PMA que nous avons exprimé, notre parti est contre la PMA pour deux raisons qui nous semblent essentielles. D'une part, c'est la porte ouverte à la gestation pour autrui sur le principe d'égalité. D'autre part, il y a un risque d'eugénisme avec la commercialisation des gamètes, comme nous l'avons vu sur certains sites où vous commandez les gamètes. Voilà notre position. Vous appelez ça de la droitisation? On n'a pas le droit de penser?
On
n'a pas le droit d'émettre?
Vous caricaturez les paroles de Laurent Wauquiez, n'avait rien à voir avec ça.
C'est exactement notre position. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de droitisation. Et vous-même, parce que vous n'êtes pas en accord avec lui, et là, militez. Vous ne faites pas une analyse, vous militez. Vous prenez ce sujet parce que vous n'êtes pas d'accord avec la position des Républicains. Donc, on n'est plus dans l'analyse politique et ça n'a rien à voir avec la droitisation.
Il y a du débat, hein ?
Oui, il y a du débat. Mais c'est bien en même temps. Non, je reviens sur les conséquences de cette crise des Gilets jaunes. On voit que... Laurent Wauquiez en paye le prix, mais comme beaucoup d'autres à gauche et un peu à droite, c'est qu'il n'y a pas eu de transfert de confiance. Dans une situation classique, quand un gouvernement de droite ou un gouvernement gauche est au pouvoir et qu'il y a une crise comme celle-là, l'opposition devient le récipiendaire de la confiance et de l'envie de l'alternative. Là, ni Wauquiez, ni le PS, un peu le Front National, enfin le Rassemblement National, peu le Mélenchon, ne sont investis de cette confiance des Français. Et donc ça, c'est toute la difficulté pour les organisations, les partis politiques dits gouvernementaux, c'est qu'ils ne sont pas investis de cette mission-là, de redresser ou d'apparaître comme l'alternative à Emmanuel Macron et à Edouard Philippe.
Juste une précision, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement citoyen. Donc moi, à chaque fois qu'on m'a dit « qu'est-ce que vous dites aux Gilets jaunes ?» Mais rien, c'est un mouvement citoyen. Ce sont des citoyens
qui expliquent aussi...
Voilà, pareil pour les syndicats, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas de politique, ils ne voulaient pas de syndicats. Donc il faut bien faire la différence, c'est un mouvement citoyen. Et après, nous menons un combat politique, mais nous le menons dans le cadre des institutions.
Pour finir sur les vœux que Laurent Wauquiez a fait tout à l'heure, hier, depuis Puy-en-Velay... Il a donné clairement, il dit redonner le choix. Son objectif, c'est ça, c'est d'essayer d'apparaître comme l'alternative possible en 2019, Et sans doute en 2022 aussi. Mais être l'alternative. Le challenge de Laurent Wauquiez.
Puisque vous l'avez évoqué également, Albert Zeynoux, il y en a une qui n'a pas besoin de faire campagne, c'est Marine Le Pen, qui fait la course en tête, dans les intentions de vote des différents sondages sur les européennes. La présidente du Rassemblement National qui a concentré ses vœux sur le mouvement des Gilets jaunes.
Réjouissons-nous qu'à l'occasion du mouvement populaire des Gilets jaunes, le peuple français se soit levé, ait exigé la légitime considération qui lui est due, ait osé engager l'indispensable rapport de force politique sans lequel, face à un pouvoir buté, il n'y a aucune avancée possible.
Alors Romain Mouton, Marine Le Pen, c'est un boulevard pour elle cette histoire.
Oui, c'est un boulevard, mais Marine Le Pen n'a aucun intérêt à ce que les Gilets jaunes émergent, n'a aucun intérêt à ce que les Gilets jaunes s'organisent en parti politique, parce que le populisme qui peut être, ou en tout cas le rejet d'Emmanuel Macron qui est incarné par les Gilets jaunes, fait le fonds de commerce de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Donc c'est pas son intérêt qu'aux élections européennes, il y ait une liste Gilets jaunes qui puisse gratter un peu sur son électorat, gratter un peu sur l'électorat d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc elle a tout intérêt, elle, à marquer le territoire et à rappeler que la contestataire et l'anti-Macron, c'est elle la pure jus.
Dominique Verceni, il y a eu Jean-Marie Le Pen, on s'en souvient, au deuxième tour, en 2002. Il y a des choses qui ne sont pas finalement si nouvelles que cela. Mais ne trouvez-vous pas que le débat politique public s'est durci aujourd'hui?
Énormément. Il s'est énormément durci.
Par rapport à ce que vous avez connu quand vous étiez au gouvernement?
Oui, c'était plus proche. Et d'abord, il y avait quand même beaucoup plus de confiance dans les hommes politiques, les femmes politiques et les partis politiques. Et justement, vous disiez, madame, c'est un mouvement citoyen et nous, on est des politiques. Sauf que eux, ils ne croient plus dans les partis politiques au sens traditionnel du terme et qu'ils veulent autrement. C'est comme en Italie avec le mouvement 5 étoiles, etc. Ils veulent autrement. Ils considèrent que leur parole existe. Et ce qu'on a vu quand on a vu tous les réveillons de Noël, là, de Gilets jaunes, qui l'ont fait. Alors, je mets à part tout ce qui a été commis comme violence et tout, que je considère
pas
du tout
mises à part,
dans ce mouvement. Un besoin de solidarité, de se retrouver ensemble, d'avoir l'impression d'être compris. Et je crois que on a beaucoup à s'interroger, les partis politiques ont beaucoup à s'interroger, de droite ou de gauche, parce que pour tous ces gens, ça ne veut rien dire. Et ils considèrent, et à Paris, on le voit bien, il y a une volonté, il y a beaucoup de collectifs citoyens, il y a beaucoup de gens qui s'organisent, malgré nous, sur les sujets les plus importants, je dirais pour mes sujets quotidiens, les migrants, etc. Par exemple, la position des collectifs parisiens et des parisiens, y compris des paroisses ou de collectifs un peu gauchistes et tout, n'a absolument rien à voir avec celle du gouvernement. Ils considèrent qu'ils ont une vision sur la façon dont on doit accueillir, traiter, accompagner. Ça, c'est une grande leçon pour moi.
Laurence Allier, c'est compliqué de poser la question après ce qui vient d'être dit, mais c'est purement anecdotique. Mais est-ce que vous avez, puisque vous êtes quand même aussi accessoirement la porte-parole des Républicains, est-ce que vous avez trouvé votre personnalité qui va mener la liste LR aux européennes ou toujours pas, hein? Parce que le temps tourne.
Je n'ai pas cette information et c'est vrai que je suis par contre impatiente qu'on puisse parler des programmes parce qu'effectivement, vous voyez que Marine Le Pen est très haut. Il va falloir qu'elle s'explique parce qu'elle veut sortir de l'Union européenne, elle veut sortir de l'euro. Et je pense que si les gens s'intéressent vraiment à ce qu'il y a derrière, ils se poseront peut-être la question d'un vote Front National.
Gérard Larcher, hostile à la candidature, du moins à tête de liste de François-Xavier Bellamy, qui est un jeune philosophe, qui est adjoint à Versailles, je crois. C'était dit dans le Journal du Dimanche, c'est vrai, c'est faux?
Alors je ne sais pas, je l'ai lu comme vous, mais je ne sais pas si c'est la vérité. Chacun a le droit d'émettre sa position, surtout Monsieur Larcher, qui est quand même une personnalité très importante dans notre parti. Oui. Mais je ne vais pas commenter ses propos, mais je ne sais pas s'ils sont vrais. Mais en tout cas, juste une petite précision sur la position du mouvement de notre parti sur les Gilets jaunes. C'est une position qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble du bureau politique. Donc c'est la position du parti.
Allez, 20h50 sur France Info. On va parler un petit peu de planète pour finir notre émission, les informer. Mais tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Jonathan Naval visé désormais par une plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle est déposée par son beau-frère Grégory Gay. En juin dernier, Jonathan Naval l'avait accusé d'avoir tué son épouse Alexia avant finalement d'avouer ce meurtre une nouvelle fois au début du mois. Incendié dans la nuit de lundi à mardi dernier par des gilets jaunes, le péage de Bandol sur l'autoroute A50 ne fonctionne toujours pas normalement. La circulation dans le sens Toulon-Marseille est toujours impossible. Le péage d'Agde sur la 9 a pu en revanche rouvrir ce matin après la réparation d'équipements endommagés par des manifestants. manifestants. Moyennant le paiement d'une caution de 560 000 euros, Greg Kelly est de nouveau libre depuis aujourd'hui. Bras droit de Carlos Ghosn chez Nissan, il aurait selon la justice aidé le patron du constructeur automobile à sous-déclarer ses revenus au Japon, pays où Ghosn est en garde à vue au moins jusqu'au 1er janvier prochain. La Turquie met en garde aujourd'hui la France. Selon elle, si le pays laisse des troupes en Syrie pour protéger la milice kurde YPG, ce ne sera bénéfique pour personne. Cette milice est en première ligne pour lutter contre l'État islamique en Syrie, mais elle est jugée comme terroriste par Ankara.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors les Français, en cette période de Noël, n'en oublient pas pour autant la planète. En témoigne le score de la pétition en ligne baptisée « L'affaire du siècle ». On en a parlé dans les informés, portée par 4 ONG, Oxfam, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace et l'association « Notre affaire à tous ». Eh bien, c'est, vous savez, ces 4 ONG qui soutiennent le projet d'attaquer l'État en justice pour non-respect de ses engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique. Eh bien, lancé il y a 8 jours déjà, 1 621 770 signataires. Je suis allé vérifier juste avant l'émission. Cécile Duflo, la directrice générale d'Oxfam France, a confié à France Info qu'elle n'en revenait pas.
Il faut dire la vérité, on s'y attendait pas. Mais en même temps, ça dit quelque chose de très fort. C'est-à-dire que cette action rencontre un écho considérable. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de citoyens qui se disent « Oui, ça suffit maintenant, il faut agir ».
Dominique Versini, qu'est-ce que ce score, cet engouement dit au fond du rapport de l'opinion au sujet des questions climatiques de la planète, selon vous ?
Moi, je ne suis pas surprise. Pour être élue d'une ville très engagée pour le climat, les gens ont une conscience aussi d'un danger vital et de problèmes sanitaires pour eux, pour leurs enfants, on le voit. Et les gens sont absolument conscients et leur problème n'est pas de savoir si l'État veut faire ci ou faire ça. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et d'ailleurs, avec Anne Hidalgo, nous soutenons totalement cette pétition et nous pensons, parce que nous avons un engagement très fort sur le climat, que aussi les maires ont beaucoup à dire au-delà de l'État. Et la preuve en est ce recours gagné contre une décision de la Commission européenne qui donnait une sorte de permis à polluer aux constructeurs automobiles. Et le recours d'Anne Hidalgo et des maires de Madrid et Bruxelles a cassé cette décision et a montré que avant les maires pouvaient pas, leur recours n'était pas recevable et maintenant les maires pourront attaquer des décisions devant lesquelles ni les États ni le Parlement européen n'ont bougé. Oui. Donc ça veut dire que il faut y croire, quoi. Là, c'est une question de vie ou de mort. On fait pas juste de la politique comme ça.
Robin Mouton, sans comparer les choses, mais une autre pétition, celle de Madame Priscilla Ludowski pour une baisse des prix des carburants à la pompe. Vous savez, c'est l'un des points de départ des gilets jaunes sur change.org. Eh bien, je suis allé voir le compteur, c'est beaucoup aussi, 1 168 770 signataires, mais parti d'avant l'été. Bizarrement, il y a une forme de paradoxe, même si les choses ne sont pas évidemment comparables. Quand même, l'engouement pour la planète est quand même assez important, finalement.
Oui.
En si peu de temps.
Ce que je trouve génial, c'est l'engouement pour ces pétitions en ligne. Et on a beaucoup critiqué, lors du mouvement des Gilets jaunes, l'utilisation de Facebook, de Twitter, des réseaux sociaux et les dérives des réseaux sociaux pour les démocraties. Mais le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la démocratie elle-même et le système qui doit se remettre en question, qui doit se réinventer. Et l'utilisation des réseaux sociaux, et notamment des pétitions en ligne avec régulièrement change.org, montre que on a cette tendance d'influencer les politiques publiques grâce à des mouvements citoyens. Et il y avait eu l'exemple aux Pays-Bas où justement une initiative de ce type avait obligé, en tout cas avait fait en sorte que l'État se vote et respecte ses engagements. Ouais. Et là, si cette pétition contribue à faire, à influencer les politiques publiques, c'est une excellente chose. Alors c'est intéressant, effectivement, ce parallèle, parce que c'est facile, et je suis là pour commenter ça, mais de dire que d'un côté, il y a près de 2 millions de personnes qui sont à fond sur les sujets climatiques, mais de l'autre, dès qu'on essaye de faire quelque chose, il y a tout le monde dans la rue. Donc comment réussir? Mais ça, c'est de la responsabilité du politique, et c'est pas la responsabilité du citoyen dans ce cas-là, c'est comment réussir à prendre les bonnes décisions qui soient applicable et surtout qu'il soit accepté par les Français. Ça, c'est l'enjeu de cette nouvelle année.
Laurent Saillez, votre regard sur cette pétition avec ce score spectaculaire en une poignée de jours d'abord. Et puis, tiens, j'ai une question à vous poser puisque vous êtes porte-parole d'un grand parti politique français. Le référendum, le RIC, le fameux référendum qui est réclamé par les Gilets jaunes, vous en dites quoi, vous?
Alors d'abord, permettez-moi de répondre sur la pétition. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux pétitions. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a bien compris, cette augmentation de taxes sur les carburants n'a jamais été destinée à la transition écologique. Seulement 20% de cette augmentation 20% a été destinée à la transition écologique. Donc c'est pour ça qu'on peut tout à fait à la fois vouloir la diminution du prix à la pompe.
Ce que je veux dire, c'est que les deux pétitions dépassent le million de signataires.
Tout à
donc,
fait.
Donc succès sur les pétitions mises en ligne.
C'est un moyen d'expression qui a été très différent parce que là, il y avait une montée populaire, on va dire, sur la pétition sur le carburant. C'est-à-dire, c'est monsieur, madame, tout le monde qu'en avait ras-le-bol de l'augmentation et qu'on signait. Et là, il semblerait qu'il y ait star vu à la télé vedette qui a poussé un peu cette pétition. Mais quoi qu'il en soit, il faut retrouver... Non mais ça a aidé, parce que ça a été très rapide, tout le monde le dit.
Il faut retrouver, parce qu'il nous reste très peu
d'accord, mais il faut retrouver, si vous voulez, un vrai programme écologique, ça c'est très clair, et on voit bien que les Français sont en attente d'un programme écologique qui est totalement perturbé aujourd'hui parce que il n'y a plus de budget. Tout est désaxé maintenant. Je veux dire, il n'y a plus de budget qui va permettre une vraie transition écologique. Donc il faut retourner vers ça.
C'est le mot de la fin, voilà. Le retourner, c'est pour ça. Allez-y. Le référendum, c'est oui, c'est non?
Le référendum, nous sommes pour le référendum. Maintenant, il faut en délimiter les contours.
Allez, Albert Zenou, on n'a plus le temps de parler, mais vous allez revenir la semaine prochaine, non? Oui. La une du Figaro demain?
La charge du pape contre le consumérisme.
Ah, ça sera vraiment la une, vous allez développer cet aspect-là des choses demain dans le Figaro, qui paraîtra en kiosque et qui sera évidemment en ligne, 20h58, c'est la fin des informés de France Info. Merci à vous Dominique Versini, Laurent Saillez, merci à vous Albert Zenou, vous revenez. Et merci à Romain Mouton, pour ma part je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition des informés.